ils ont pu apporter un message vraiment encourageant à la jeunesse sur la place de la peur dans nos vies. Et c'était vraiment un plaisir aussi de pouvoir prier ensemble avec les jeunes de 5 à 6 heures. Hier, c'était plutôt de 5h30 à 6h10, mais bon, qui compte. On passe un moment de prière avec les jeunes où on prie pour les sujets de l'église. Si vous avez des sujets à nous partager, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Facebook ou autre. On se fera un plaisir de prier pour ça avec la jeunesse. Voilà, je pense que j'ai fini l'introduction de ce matin. J'aurais bien un peu partagé ce matin sur un texte dans le livre de Matthieu. Et je sais qu'on a tous ici rencontré Dieu d'une façon différente. Moi, je l'ai personnellement rencontré lorsque j'étais petit. Ça a été un ami fidèle, un confident profond. C'est vraiment une bouée de survie, parfois même Jésus, une source de joie. C'est intéressant de voir qu'à différents moments de ma vie, Jésus, il a différents rôles dans ma vie. Mais ça reste mon Dieu. Jésus, il s'adapte un peu à nos situations. Il devient ce dont on a besoin, ce dont on a besoin au bon moment. Si on a besoin d'un ami fidèle, il est là pour nous. Si on a besoin d'un confident, il est là pour nous. Si on a besoin d'une bouée de survie parce que les choses sont trop difficiles, il est là. Si on lui demande, il est là. Mais il reste en tout cas tout le temps notre Dieu. Je me rappelle très bien une fois, je suis rentré dans une église catholique et j'avais vu une cathédrale absolument gigantesque. Justement, c'était en Italie, on peut se dire ça. En Belgique, si on va dans une cathédrale, c'est beau, mais voilà. En plus, on va dans un musée, il y a une peinture. Là-bas, ils ont un patrimoine absolument exceptionnel culturel. Et on j'entre dans cette église avec des tableaux d'artistes que je ne connais pas parce que je suis pas assez intelligent, mais que tout le monde dit qu'ils sont très bien. Une belle cathédrale, construction magnifique, et ça nous met un peu en évidence cette fait sur la nature de Dieu, que Dieu c'est un roi. Que Dieu, il est Dieu, quoi. C'est pas n'importe qui. On avance beaucoup dans nos églises que voilà, Dieu, c'est notre ami, mais il a aussi cette royauté qui dégage. Hein. C'est pas n'importe qui nous accompagne. C'est le roi des rois. Et Jésus, je l'aime profondément encore au cours de ma vie qui n'est pas excessivement longue, 29 ans dans quelques jours. J'ai pu voir sa main à multiples reprises dans ma vie et celle des autres. Mais également, je trouve qu'une vie sans Dieu, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, je vous encourage tous, si on n'a pas encore rencontré Jésus, de pouvoir l'inviter à venir dans le cœur, évidemment. Et on va voir alors notre vie transformée et changée. Ce que j'ai toujours été impressionné par Dieu, c'est que Dieu, il respecte vraiment la volonté des gens. Si on veut qu'il reste loin, il reste loin. Si on veut qu'il soit tout proche, il s'approche tout près. Ce qu'il attend, c'est que nous, on lui laisse la place. Ça c'est vraiment un acte d'amour profond, en fait, de se dire, ok, je respecte ton choix, même si je sais que c'est pas nécessairement le bon, mais je le respecte. C'est difficile, ça, parfois, de respecter le choix des autres quand on n'est pas d'accord. Bien, Jésus le fait sans problème. C'est pas d'un sentiment de supériorité qui fait ça, mais c'est parce que un vrai amour, eh bien, ça doit pouvoir nous laisser le choix pour que ça vienne de nous et pas de lui le désir de vouloir l'approcher. Ce matin, je reviens qu'on regarde ensemble le chapitre 3 et 4 de Matthieu. On va regarder le début du travail de Jésus et la fin du ministère de Jean-Baptiste. Je pense vraiment que ça peut parler à nos vies aujourd'hui. Je crois fermement même que la Bible, ça peut nous aider à naviguer les décisions de nos vies. Amen. Amen. Je partage ça souvent. J'ai pas envie que quand on prêche ici ensemble le dimanche matin, qu'on ait des connaissances en plus, qu'on apprenne 3 mots d'hébreu en plus, 4 mots de grec, fantastique, super. Mais pour nos vies, à quoi ça sert? Non, ce qu'on veut, c'est des révélations. On veut que la connaissance, elle parte de notre tête et qu'elle aille prendre le chemin de notre cœur et que de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a compris, on puisse avoir le Saint-Esprit qui travaille en nous et il y a un changement qui est manifesté dans nos vies. Ça, c'est le genre de révélation qu'on veut voir. Amen. Amen. Je vous demande de vous joindre à ma prière ce matin. Je vais prier que Dieu puisse vraiment nous apporter des révélations qui apportent des changements sincères dans nos vies. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin parce qu'elle nous guide dans nos vies, Jésus. Je prie pour chaque cœur, pour chaque personne qui est ici ce matin. Merci parce que tu as des réponses pour nous, des réponses qu'on peut appliquer à nos vies, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens te manifester de façon de plus en plus puissante dans nos vies, qu'on puisse tangiblement te voir agir, Jésus. Viens nous révéler les choses qu'on ne voit pas encore, Seigneur, là où tu agis et qu'on n'a pas encore vu. Viens pouvoir nous donner ta vision sur les circonstances et viens nous aider à pouvoir vraiment avoir un caractère qui est à la hauteur de l'appel que tu as pour nous. Merci Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer le livre de Matthieu, on parlait ce matin avec Camille et Léa sur le contexte de chaque livre de biblique. C'est important de pouvoir placer un livre ou une parole, un verset dans son contexte. Si je raconte une histoire et que je dis que Pascal a volé une pomme, et si je vous dis juste Pascal a volé une pomme, et que vous lisez pas le contexte, Benjamin raconte une histoire et dit Pascal a volé une pomme. Ces deux différences-là vont avoir une signification très 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 différente. Dans un, vous allez prendre Pascal pour un voleur, et dans l'autre, vous allez comprendre que Benjamin ment. Benjamin a raconté que. Et bien de la même manière, il faut pouvoir comprendre le contexte de chaque livre biblique et le contexte de Matthieu. Si on aborde la lecture de l'évangile de Matthieu, à la différence de Marc, on comprend mieux l'originalité de cet évangile. Celui de Marc, l'évangile de Marc, c'est une suite de faits, voilà, vivants, qui s'est passé, qui montre que le Fils de Dieu est à l'œuvre. Tandis que Matthieu, il veut vraiment s'attacher à prouver et exposer l'enseignement de Jésus en rapportant plusieurs de ses longs discours aux foules, dans la culture d'origine hébraïque. Dans une certaine mesure, pour Matthieu, l'histoire, ça a un intérêt un peu secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est le message qu'il contient, la preuve qu'il apporte. Il va détacher volontiers un fait de son contexte historique. Il peut sembler, par exemple, manquer de localisation de temps et d'espace, Matthieu. On peut avoir l'impression qu'il n'a pas bien compris dans quel ordre ça se passait dans la vie de Jésus, mais la plupart des détails, à la grande différence de Marc, ils sont laissés de côté, et on ça donne parfois quelques problèmes de chronologie quand on lit Matthieu. Mais la raison pour ça, c'est que Matthieu, c'est un évangéliste qui veut atteindre les Juifs avec son message. Donc, la chronologie n'a pas autant d'importance pour lui que le message vraiment que ça apporte. Alors, parfois, quand on lit ce livre qu'est Matthieu, on peut se demander, oui, mais ça, c'est dans les autres évangiles, c'est décrit avant, après, c'est bizarre, c'est pas ce moment-là. Mais c'est parce que, pour Matthieu, voilà, ce qu'il veut faire passer, c'est le message. Quand il raconte, par exemple, le sermon sur la montagne, il veut vraiment raconter le sermon sur la montagne, pas quand ça s'est passé, mais que ce message a eu lieu. C'était quoi le contenu de ce message-là? On va commencer par le chapitre 3. À partir du verset 1, ça raconte le ministère de Jean-Baptiste. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus, il annonce l'arrivée d'un royaume nouveau. C'est qui cet homme qui s'appelle Jean-Baptiste, hein? C'était un homme appelé par Dieu, hein, qui avait une conviction profonde de son appel de prophète. C'était un homme qui n'avait pas l'hypocrisie des pharisiens. Les pharisiens, ils voient que les gens, on va le voir un peu après, que les gens se font baptiser, alors ils veulent faire de même. Il annonce Christ. Jean-Baptiste était un prophète appelé par Dieu et le cousin de Jésus. Et c'était un prédicateur, en fait. C'était ce qu'on appelait un Cohen. C'était une sorte de prêtre qui, il prenait le pardon des péchés par le baptême et non pas par les rites du temple. C'était vraiment déjà un changement culturel assez énorme. C'était vraiment un solitaire, quelqu'un qui était assez ascète dans sa vie, c'est-à-dire que il se mettait beaucoup de règles pour vivre sa relation avec Dieu. Il mangeait du miel et des sauterelles. Quelques jours, je parlais avec un ami qui me disait que les sauterelles, quand on les mange, ça n'a pas de goût, c'est juste croquant. Je n'ai jamais goûté de sauterelles. Mais apparemment, peut-être avec du miel, ça passe, mais je ne sais pas. Mais c'était bizarre. Jean-Baptiste, c'est un caractère vraiment bizarre. Et Jean, il parle d'un homme qui doit venir après lui, il parle de repentance, il parle d'un royaume à venir. Jean annonce Jésus avec une passion et une foudre qui reflètent vraiment le caractère de cet homme. Jean, c'était un prophète avec un appel très spécifique, et on peut voir que son caractère a passé le test pour l'appel que Dieu avait sur sa vie. Dans les églises, on parle beaucoup d'appel, on parle beaucoup du fait que Dieu a une destinée pour nous, mais on parle rarement de caractère. Si notre appel, c'est la mission que Dieu a pour nous, c'est l'appel que Dieu a mis sur notre vie, notre caractère, c'est comment est-ce que nous, chaque jour, nous sommes Jésus. Nous reflétons ses valeurs. On ne parle pas évidemment ici de personnalité, du fait qu'on doit devenir comme Jésus. Quand on dit ça, on ne parle pas qu'il faut supprimer sa personnalité et tous devenir des petits robots qui sont les mêmes. Non, non, on adopte ses valeurs, sa vision, sa mentalité. et nous sommes nous-mêmes mais sanctifiés. Hein? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est seul? C'est là que notre caractère se met en valeur, quand on a l'occasion peut-être d'être dans une situation où d'autres voleraient. Est-ce que nous on va voler? Est-ce que nous on va mentir? Ça c'est le test de notre caractère. C'est à quel point nous sommes sur la marche de la sanctification. Et Jean, il a aussi un test de caractère comme tout le monde. Il aurait pu obtenir la gloire des foules. Il avait des foules qui venaient le voir. Il aurait pu faire alliance avec les chefs religieux de l'époque qu'on appelait les pharisiens pour se mettre plus en avant. Il aurait pu refuser Jésus. Mais Jésus dit qu'aucun prophète ne fut aussi grand que lui. C'est quelque chose de fort comme parole de la part de Jésus. Parce que ici, on va en parler dans un chapitre de Matthieu, mais c'est tout. Et pourtant, Jésus dit que c'est le plus grand prophète qu'il y a jamais eu. Alors déjà, pour les juifs, c'était sans doute Ésaïe à l'époque, le plus grand prophète qu'il y avait jamais eu. Alors qu'ils disent que cette personne qui est encore vivante, c'est le plus grand prophète, c'était choquant. On va continuer à lire dans Matthieu 3, cependant, au verset 7, « Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir de la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que cette pierre, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il a sa pelle à la main et il nettoiera son aire de battage. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » On peut voir ici dans l'analogie que sûrement il y avait une culture d'agriculteurs, de gens qui ramassaient, qui travaillaient la terre, parce que l'image qui est peut-être un peu mystérieuse pour nous que Jean-Baptiste utilise, c'est vraiment cette idée que Jésus il va venir mettre de l'ordre dans son royaume, dans le peuple qu'il a choisi. Et les pharisiens, avec cette conviction que comme ils étaient descendants d'Abraham, c'était un droit pour eux d'être sauvés, d'être avec Dieu, et que c'était cette affiliation filiale qui leur permettait de rester dans le salut. Et ils voient Jean-Baptiste qui baptise des milliers de personnes, ils se disent « Ok, nous on va aller faire la même chose » parce qu'il y avait cette idée d'apparaître saint. Et Jean-Baptiste, preuve de son caractère, se met en colère face à eux quand il voit leur hypocrisie. Hypocrisie est un mot qui est beaucoup utilisé dans la Bible. Si on remonte un peu au grec, ça veut dire celui qui met un masque. C'est intéressant ça. Hypocrites en grec, on va avoir un mot grec aujourd'hui, c'est les gens, pour ceux qui aiment le théâtre, qui portaient des masques. Hein? Il leur dit, voilà, vous portez un masque, mais vous ne portez pas de fruits qui confirment que le changement que vous dites avoir eu lieu, eh bien, se trouve dans votre vie. Donc quand les pharisiens viennent se faire baptiser, puisque c'est ce que les gens bien faisaient, Jean-Baptiste les envoie promener. Je ne sais pas si vous avez des personnalités ou quand vous voyez des gens religieux, ça fait monter en vous quelque chose, une colère. Hypocrite, va-t'en. Moi parfois ça m'arrive quand je vois des gens qui sont trop religieux, qui ne sont pas sincères dans leur démarche avec Jésus, il y a une espèce de rébellion en moi qui se met. Non, c'est pas juste, ça c'est hypocrite. Une des choses qui est absolument certaine, c'est que quand on pense on appelle la génération actuelle, hein, quand on pense à la génération actuelle, hein, dont je fais partie, on a un sixième sens. Ça, c'est les psychologues qui disent ça, c'est les sociologues, pour repérer l'honnêteté. Si on n'est pas honnête avec les gens 20-35, il y a un sixième sens qui le sent. C'est pour ça que la pertinence est très importante pour la jeunesse postmoderne. Si on a des jeunes, s'il y a quelque chose qui ne tient pas la route dans nos vies, ça va se sentir direct. C'est assez extraordinaire, c'est culturel. Jean-Baptiste y finit par traiter tous les hommes de la loi d'hypocrites et termine en proclamant un message mystérieux sur Jésus qui nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, Éphésiens 1 nous apprend que Dieu a décidé de sceller la promesse qu'il a mis en nous par vraiment une preuve. Alors je sais pas, pour ceux qui ont loué un appartement, le Saint-Esprit est appelé vraiment comme une garantie de notre salut. Donc Dieu a dû trouver dans l'univers la chose la plus certaine pour promettre pour mettre vraiment comme somme d'argent pour dire voilà, moi ça c'est la garantie de votre salut. Et bien il s'est mis lui-même comme garantie. Dieu s'est mis lui-même comme garantie de notre salut. C'est pas extraordinaire, de toutes les bénédictions qu'on a eues. Éphésiens 1 nous apprend que c'est le Saint-Esprit qui est vraiment cette garantie locative, pour ceux qui ont loué déjà un appartement ou une maison. Saint-Esprit est notre garantie locative. Eh bien, Jean-Baptiste avait annoncé ça en disant qu'on serait baptisé de Saint-Esprit et de feu. Et donc, on a cette histoire de Jean-Baptiste qui démontre vraiment que le caractère est super important pour répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Le caractère est vital. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Lorsqu'on a vu notre ami Jean-Baptiste, on a pu voir que son caractère lui a aidé à tenir les circonstances et les tentations. Il y a un mensonge qui a circulé dans nos églises pendant de nombreuses années, c'est le fait que quand on est chrétien, il n'y a pas de souffrance. Quand on est chrétien, il n'y a pas de souffrance. Ce n'est pas vrai, malheureusement. Hein, c'est pas ça. C'est pas ça le message de l'évangile. Ce que Jésus promet, c'est pas qu'il n'y a plus de souffrance quand on vient dans la vie, c'est qu'il sera présent dans les souffrances et qu'il nous aidera à les vaincre malgré celle-ci, à travers celle-ci. On n'a pas bien sûr, le Dieu nous protège de certaines souffrances, hein, ça c'est d'office, mais il y a quand même des souffrances qui vont venir, qui vont se déchaîner autour de nous, mais la différence c'est qu'on va tenir. Il y a cette image extraordinaire que Jésus donne sur ceux qui bâtissent leur maison sur le sable, la tempête se déchaîne, la maison est détruite, mais ceux qui bâtissent leur maison sur le roc, la tempête se déchaîne, mais la maison tient. Ce que Jésus veut dire à ce moment-là, si vous suivez mes enseignements, les circonstances de la vie vont se déchaîner, parce que la vie est faite de souffrances, mais vous tiendrez bon, mais vous ne deviendrez pas fou, mais vous ne sombrerez pas dans la folie humaine, de la souffrance, non, vous allez tenir bon, parce que moi je suis avec vous. Amen. Ça c'est quand même une promesse assez impressionnante, d'imaginer que malgré les souffrances, on en ressort victorieux. Que malgré les souffrances, tu réfléchis comment tu vas agrandir ta maison qui est basée sur le roc. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens malades, mais vraiment malades, qui ont placé leur foi en Jésus. Vous allez les voir pour les encourager, et vous ressortez là, c'est eux qui vous ont encouragé. Hein? C'est eux qui, par leur foi, on se demande c'était qui allait encourager. Qui? Parce que vous sortez de là, vous dites, ouais, bon, ça va, quoi. C'est lui qui m'a encouragé dans sa maladie. C'est parce qu'ils ont décidé de bâtir leur maison sur le roc, et ça se manifeste que, voilà, malgré les circonstances, eh bien, ils comptent sur Dieu. Hier soir, on a vu un jeune qui s'appelle Raphaël. Mardi, il se fait opérer, on lui greffe un œil, enfin, il a corné d'un œil. On peut prier pour lui, mais il y avait beaucoup de joie sur son visage. Il n'a pas peur. Bon, c'est un jeune homme qui n'a peur de rien en général, mais on peut vraiment voir que il a confiance en Dieu, ça ne lui fait pas peur. Il a placé sa vie entre les mains de Dieu, et il est serein. Hein, on pourrait croire que ça l'inquiète, pas du tout, non, tout va bien. Ici, on a après ça, après Jean-Baptiste, où on voit que son caractère vraiment nous inspire à pouvoir vivre la même chose. On a l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus. Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Ça, c'est le début du ministère public de Jésus. Il était appelé avant, mais cela devient public. Quand notre appel devient public, c'est lorsqu'on passe par le baptême, notre appartenance à Christ, elle est publique. Je sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà essayé de faire ça, de tenir un ballon qui est gonflé. Enfin, il y a peut-être que moi, mais vous êtes dans une piscine et vous essayez de maintenir un ballon gonflé dans l'eau. Et on essaie parfois de se mettre sur le ballon. Je vois des gens qui font oui, je vois des gens qui me regardent avec des yeux, mais de quoi ils parlent? Donc, vous êtes dans une piscine, vous avez un ballon et vous essayez de le pousser dans l'eau et de vous mettre dessus. Évidemment, au niveau balance, faut trouver son équilibre et ça marche pas parce que le ballon veut remonter. Et parfois, j'ai l'impression que la vie chrétienne, c'est comme essayer de tenir un ballon sous l'eau. On est constamment en train d'essayer de balancer les choses dans notre tête et dans notre vie. Et alors, les gens se disent, mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu dis, je suis chrétien. C'est ça. Et si on fait, lors de notre marche chrétienne, on parle beaucoup du plan de Dieu pour nos vies, mais lorsqu'on examine les choses avec sincérité, on se rend compte qu'il y a parfois quelque chose qui nous manque, et on manque de fruits. J'avais parlé de ça une fois quand j'ai grandi en Belgique. À un moment donné, j'étais fatigué d'avoir une double ou une triple identité dans ma foi. Je veux vraiment être en paix avec qui je suis avec Dieu. J'en ai marre du ballon qui flotte tout le temps. Le fait que j'ai difficile à me balancer, j'en ai marre d'être consumé par mes désirs. Je veux vraiment pouvoir placer toute mon identité en Jésus. Et que c'est lui qui garde le ballon dans l'eau. Moi, je nage, je m'amuse. J'ai l'impression qu'on est facilement distrait de ce que Dieu a pour nous. Et attention, les distractions ne sont pas toujours mauvaises, hein. Il y a parfois des bonnes distractions. Mais ça nous empêche parfois d'avoir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Ça nous empêche parfois de répondre à notre appel en tant que fils et fils de Dieu. Pour arrêter de vivre une double ou une triple identité, je suis convaincu qu'on doit embrasser complètement la nouvelle identité que Dieu nous a donnée. Je dois avoir mon intelligence renouvelée par l'Esprit pour avoir une vision céleste des circonstances. Que ce n'est pas les choses humaines qui me dictent comment les choses sont, mais que ce sont vraiment les choses célestes, que j'ai la vision de Dieu. On doit pouvoir comprendre, pour cette identité-là, que lorsque Dieu nous accueille, il proclame un message similaire à ce qu'il a dit à Jésus, « Celui-ci est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon approbation. » Est-ce que aujourd'hui tu peux te dire, moi quand je pense à Dieu qui me regarde, je vois Dieu qui dit, voici mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon approbation. C'est comme ça que Dieu nous voit, hein. C'est vraiment comme ça. Et alors, on se regarde et dit, ouais, pour moi je sais pas, je suis pas sûr. Mais si, c'est comme ça, c'est ce que la parole de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous voit à travers le sacrifice de Jésus. Donc il n'y a pas de condamnation dans le regard de Jésus sur nous, dans le regard du Père sur nous. Il n'y a pas de séparation dans le regard du Père sur nous. Il faut être vraiment convaincu qu'on est accepté par Dieu. Et quand on entre dans cette compréhension qu'on accepte, ok, moi quand je suis devant Dieu, je suis accepté, je suis affirmé, ça comble un vide dans nos cœurs. Ça comble un vide profond dans nos cœurs de se dire ok, toute la culpabilité que je porte, tous ces sentiments qui m'écrasent, ils disparaissent par le nom de Jésus. Parce que nous sommes vraiment devant Dieu et il dit, celui-ci est mon fils, ma fille bien-aimée en qui j'ai placé toute ma confiance. Passons au chapitre 4 qui nous enseigne quelque chose d'intéressant qui se passe après l'appel public du ministère de Jésus. Matthieu 4 nous dit, puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet, il écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et lui donnèrent à manger. Lorsque nous sommes appelés en plus des circonstances, lorsqu'on est appelé par Dieu, lorsqu'on a répondu et on dit oui à Jésus dans nos corps, en plus des circonstances qui peuvent se déchaîner autour de nous et c'est là qu'on doit pouvoir s'accrocher à Jésus, il est possible aussi que l'obscurité essaie de nous attaquer. C'est très intéressant de voir quand le ministère de Jésus est devenu public, Satan a essayé de l'attaquer. Et Jésus était prêt, il avait passé du temps, 40 de jeûne, de prière dans le désert. Et à la fin, Satan vient le tenter. Et c'est intéressant de voir dans la tentation de Satan, on ne comprend pas trop ce qu'il fait jusqu'à ce qu'on arrive au troisième point, où Satan, par frustration, révèle son idée, l'accusateur révèle son idée, « Prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tout. » Alors, deux choses intéressantes pour moi. Satan se permet de donner quelque chose qu'il n'a pas. Satan se permet de donner quelque chose qu'il n'a pas. Ce qu'il a, il l'a volé, donc c'est pas vraiment à lui. Et non seulement il se permet de donner quelque chose qu'il n'a pas, mais il veut donner à quelqu'un qui a déjà, il veut le redonner. C'est peut-être un bon vendeur, je ne sais pas. Hein, quand quelqu'un arrive te vendre quelque chose qui en fait est à toi. Mais c'est ce qui se passe avec l'ennemi dans nos vies. Il nous vend quelque chose qu'on a déjà. Est-ce qu'on n'a pas déjà essayé de trouver dans certaines choses du monde de l'amour propre, de l'acceptance, de la joie, de l'épanouissement? On a essayé de nous vendre, c'est ce que font les gens en marketing, on essaie de nous vendre ce qu'on a déjà. C'est un peu de l'arnaque, moi je trouve, hein, je suis désolé. Mais c'est ça que Satan veut faire. Il essaie vraiment de pouvoir tenter Jésus, de révéler son plan. Voilà, moi ce que je veux, c'est que tu me remettes à nouveau l'autorité que j'avais eue. Je ne l'ai pas de toi. On n'a pas l'impression que Satan il ait vraiment conscience de qui est Jésus. Parce que s'il avait conscience de qui est Jésus, il n'y aura probablement personne qui aurait pu toucher physiquement Jésus. Puisqu'à travers la croix, Jésus a défait Satan. Donc c'est une question à se poser. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est que Satan, il a été complètement défait et vaincu à la croix. L'obscurité qui essaye d'attaquer nos vies ne peut rien contre nous. Et c'est là qu'on entre à nouveau dans notre mentalité de fils et de fille du royaume de Dieu. Non seulement je sais que quand Dieu me regarde, j'ai son approbation, il me regarde, il a des bons sentiments envers moi. Et ça, je pense vraiment que c'est pour des gens ici spécifiques ce matin. Quand Dieu te regarde, il a de l'approbation envers toi, tu as accepté. Amen. Non seulement ça, mais en plus, lorsqu'on est vraiment dans cette lumière d'être fils et fille du royaume de Dieu, on peut juste dire à Satan, va-t'en. Entre toi et moi, il n'y a rien. Hors de ma vue. Ce que tu essaies de me donner, moi je l'ai déjà. Pas besoin de tes mensonges. Lorsqu'on va avoir un appel de notre vie qui va être passé de privé à public, lorsqu'on a des opportunités de pouvoir servir Dieu, on va avoir l'obscurité qui peut se déchaîner autour de nous, en plus des circonstances. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois vous ne vous demandez pas s'il y a quelque chose qui s'acharne contre vous. Quand ce n'est pas juste les circonstances, mais vraiment vous sentez vous avez l'impression qu'il y a une force qui travaille contre vous. Hein. En tant que Belge, on prend souvent les coups. Mais en tant que chrétien, en tant que fils et fille du royaume de Dieu, on est appelé à refuser ces coups-là. Ok? C'est comme si on avait les armes en main, qu'on a l'autorité de dire, moi dans le nom de Jésus, je chasse toutes ces choses-là, je ne les veux pas. Eh bien, on prend les coups, comme bon Belge, voilà, il fait mauvais, le temps est mauvais, mais c'est comme ça et c'est tout, hein. Voilà. Il fait pas beau, hein, aujourd'hui, non? Ça va? Ouais, on fait avec. Mais c'est très belge, ça, quand même, on respecte beaucoup sur les choses parce qu'on a appris qu'on pouvait pas vraiment les changer. On peut pas vraiment changer le fait qu'il fait tout le temps gris en Belgique. Enfin, ça c'était peut-être vrai il y a longtemps, mais voilà. Donc parfois on vit la même chose dans notre foi. On prend les coups et on ne répond pas. Mais non. Il faut pouvoir dire non à Satan, aux obscurités qui se déchaînent contre nous. Il faut pouvoir dire, moi je refuse, ça c'est pas la destinée que je veux pour ma vie. Moi je place ma confiance en Jésus. Et moi, je pense que quand on prend cette autorité-là, qu'on la proclame, même, je veux dire, oralement, on dit, ouais, moi, je dis non à Satan et à tous ses plans pour moi, moi, je choisis Jésus, l'ennemi ne peut plus agir contre nous. C'est fini. Il est désarmé. On a proclamé un message qui le rend fou. Alors, après ça, on a Jésus, qui est donc vainqueur, il reste pas à Nazareth, il va habiter à Capernaum, au bord du lac, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Le peuple il y a le passage dans la Bible qui dit pays de Zabulon et de Nephtali près de la mer de l'autre côté du Jourdain, Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer, changez vos vies, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus marche au bord du lac de Galilée, il voit deux frères, Simon qu'on appelle Pierre et André son frère, ce sont des pêcheurs. Et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. On a Jean-Baptiste qui annonçait que le royaume de Dieu est proche, que le royaume de Dieu arrive. Ici, Jésus se met à annoncer, le royaume des cieux est tout près de vous. Ça arrive, c'est parti, on avance. Jésus appelle Pierre et André. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils sont dans la barque avec leur père. Ils réparent leur filet, Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Jésus va dans toute la Galilée, il enseigne dans les maisons de prière juives. Ils annoncent la bonne nouvelle du royaume. Il guérit tous les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est de Jourdain. Intéressant le ministère de Jésus qui se forme au nord d'Israël. Donc il y a ce qu'on appelle la mer de Tibériade qui est en fait un lac assez énorme. J'étais là-bas, je crois que c'est l'année passée, donc la ville où Jésus va habiter Capernaum. C'était une ville qui est vraiment au nord de ce lac-là. Et c'est vraiment, si on regarde à l'époque, c'était vraiment une croisée des chemins pour les gens. C'est-à-dire que les gens qui venaient de pays comme la Syrie, comme la Turquie, qui descendaient sur Jérusalem, y passaient par Capernaum. C'était une ville de transition, quoi. Donc c'est pas étonnant que quand Jésus commence à guérir des gens, quand Jésus commence son ministère public, eh bien on entend parler de lui partout parce qu'il y avait beaucoup de marchands qui passaient par là, il y avait énormément d'itinérants, de pèlerins, de gens qui allaient à Jérusalem, qui passent par là, et on entend parler de ce Jésus qui guérit les gens et les malades. Et c'est là que le ministère de Jésus commence de façon publique. Jean est mis en prison, il diminue, il se laisse faire, Jésus commence son ministère, il appelle ses disciples, il guérit les foules, il prêche le royaume. Et aujourd'hui, nous, on peut se dire que ce royaume qui était annoncé, qui était très proche, nous, on l'a reçu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On voit vraiment la chronologie, il était annoncé, il était tout proche, et maintenant il est là, il est présent, le royaume de Dieu est là. Jésus, dans le contexte historique, c'était un peu un provocateur social, un homme mystérieux. S'adressant à ses disciples, Jésus dit dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 10, 39, « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'a perdue à cause de moi la trouvera. » Si tu veux trouver ta vie, perds-la. Si tu veux trouver ton appel, oublie-toi. C'est pas dans un sens bouddhiste où il faut s'effacer. Voilà, les bouddhistes, ils veulent s'effacer par rapport au monde, donc ils ne veulent cesser d'exister. Non, c'est pas du tout ça. C'est dans un sens que pour trouver la volonté de Dieu, on doit tout remettre à lui, abandonner nos plans égoïstes et décider de vivre pour un but plus haut. Alors, moi, au début d'un certain moment dans ma vie chrétienne, j'étais un petit peu déprimé de l'idée que je devais abandonner mes rêves. Franchement, c'était un peu un blues. Mais c'était pas vraiment mes rêves, c'était l'idée, on pouvait pas choisir à faire ce qu'on voulait. Mais je me rappelle un moment très spécifique où j'avais fait le pas d'aller vers Jésus. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et j'ai vraiment entendu clairement Dieu qui m'a répondu, qu'est-ce que tu veux faire? On peut dire ce qu'on veut faire. C'est formidable, ça. Moi, je ne savais pas que ça marchait comme ça. Mais puis, si on réfléchit, ça a plein de sens. Dieu nous crée comme on est. Il va pas nous demander de planter des choux s'il nous a créés pour planter des haricots. C'est tout à fait logique. Ce serait tout à fait à contresens que Dieu met en nous une personnalité qui se fatigue à nous créer avec des dons et des talents et qu'on devrait faire exactement l'opposé de ces choses-là. Si on réfléchit de façon simple, c'est un peu un non-sens. Mais peut-être, il y a des moments dans notre vie chrétienne où on a cru que c'était comme ça. Peut-être parce que on avait placé ses rêves, ses visions, comme une idole dans nos vies, quelque chose de vraiment, voilà, moi, tout ce que je veux faire, c'est ça. Non, non, non. T'es appelé à vivre dans une dimension plus haute, dans une identité plus élevée. C'est les mêmes rêves, les mêmes visions, mais c'est pas la même personne qui les accomplit. On peut être le plus grand des hommes d'affaires, mais si on est le plus grand des hommes d'affaires avec Jésus, c'est une autre dimension. C'est une autre identité, c'est une autre personne qui fait ces choses-là. Donc en fait, c'est exactement les mêmes rêves, les mêmes circonstances, mais c'est juste que la personne, la façon dont elle appréhende le monde, la personne, qu'est-ce qu'elle amène avec elle, eh bien, c'est le royaume de Dieu. Hier soir, on avait un jeune qui s'appelle Robin, on parle souvent du royaume de Dieu. Et ce que j'aime bien dire au groupe Jésus Révolution en Belgique, c'est le fait que il y a vraiment cette bulle autour de nous, cette bulle du royaume de Dieu autour de nous. Comme pour ceux qui regardent maintenant, il y a beaucoup de films avec des gens qui ont des super pouvoirs, Marvel, enfin tout ce que vous voulez, c'est tout le temps maintenant, hein, Star Wars. Eh bien, autour du chrétien, il y a une espèce de bulle interdimensionnelle où le péché n'a pas le droit de régner. Autour du chrétien, il y a une bulle interdimensionnelle que quand on va quelque part, on va dans une pièce, on est habité d'une joie céleste. Et que s'il y a quelqu'un qui est déprimé dans la pièce, eh bien, il n'a pas le droit de rester déprimé. Mais il faut se rendre compte de ça. Parce que si on s'en rend pas compte, c'est comme si on cachait un peu ces choses-là. Qu'est-ce que j'amène, moi, quand je vais au travail? Qu'est-ce que j'amène, moi, quand je sors? Est-ce que c'est juste moi que j'amène ou j'amène quelque chose en plus que moi? Et il faut pouvoir vraiment entrer dans cette compréhension que quand moi je vais quelque part, j'amène tout le royaume de Dieu avec moi. Et puis si on réfléchit, ok, Seigneur, dans ta promesse, Éphésiens 1, c'est vraiment le chapitre où chaque bénédiction spirituelle est citée, et avant ça, Paul nous dit qu'on a reçu toute bénédiction spirituelle possible, on l'a eu en Jésus. Donc tout ce qu'on peut vous promettre spirituellement, on l'a reçu en Jésus. C'est extraordinaire. Donc, et on peut se dire, ok, moi je vais quelque part, je vois quelqu'un qui est dans la souffrance. Eh bien, j'ai envie d'intervenir, j'ai envie de faire quelque chose parce que c'est en moi. Il y a cette recette en moi. Moi, parfois, je vois beaucoup de gens qui veulent un peu la recette pour les miracles, hein, la recette pour la guérison. Mais ça dénue un peu de son sens. Quand Jésus guérit des gens, c'est parce qu'il a compassion pour eux, parce qu'il les aime. Parce qu'il dit, ok, moi j'amène la solution à votre souffrance. Hein? Et quand Jésus s'approche des gens, il ne commence pas à leur donner un discours théologique en trois points sur la repentance. D'abord, il s'occupe des besoins des gens. Ok, t'es guéri. Maintenant, change ta vie. Ok, tu es comblé. Maintenant, change ta vie. Et puis ça va même encore plus loin que ça, c'est notre vie change, on est transformé par Jésus et naturellement les choses se mettent en place. C'est qui on était depuis le début en fait, c'est notre identité céleste qui est notre véritable identité. Donc pour nous ça veut dire quoi tout ça? Je pense que ça nous encourage vraiment à pouvoir nous dire que on a été créé pour être des fils et des filles du royaume de Dieu depuis le départ. Que c'est pas quelque chose qu'on a choisi d'être, que c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça par hasard. Non, non, non. À la base, le plan initial, c'était de marcher dans cette idée-là, de marcher dans cette identité-là. Et qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est on redevient nous-mêmes. Moi, je me rappelle, je parlais à quelqu'un il y a quelques semaines, et il m'a dit qu'il avait vraiment une mauvaise semaine. Il a quelque chose par rapport à l'alcool, il a facile à boire. Et il m'a dit que, voilà, donc les gens qui sont en souffrance parfois, c'est, il y a une circonstance qui se passe. Et puis ils vont se mettre à boire. Ça peut plein de choses. Hein. Ça peut être, c'est les dépendances. Donc ça peut être de la pornographie, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la marijuana, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des mécanismes dans notre tête qui se sont installés, des mauvaises habitudes. Il y a un truc émotionnellement dur qui se passe. Et bam, on veut mettre un filtre entre nous et la réalité. Et à un moment donné, il dit, il arrivait vers la fin de la semaine, il était sorti 3 fois. Et il a réfléchi, mais il s'est dit, mais c'est pas moi ça. Ça c'est pas moi. Et puis il a arrêté, il s'est repenti, il s'est approché de Dieu. Et c'était très intéressant le fait qu'il dise c'était pas moi pour moi. Et il y avait personne qui était venu l'annoncer, la repentance, la culpabilité. La culpabilité c'est bien, mais ça marche que 3 jours. Ça marche 3 à 4 jours et puis hop, on retombe. Mais par contre, l'identité ça peut marcher pour une vie ça. Si de ce pupitre je vous condamnais et je nous condamnais tous par rapport aux actions qu'on fait, ça peut marcher. Allez, une semaine, on va se sentir mal, on va essayer de faire un effort et puis c'est tout. Par contre, si c'est qui je suis, est-ce que moi j'ai besoin de ces choses-là pour pouvoir vivre ma vie avec... Non, moi j'ai Jésus, je devrais pas avoir besoin de ces choses-là, il y a un truc qui va pas. Il y a ce paradoxe qui prend place et il y a 2 royaumes qui s'affrontent en nous. Et on peut être assuré que le royaume qui gagne, c'est le royaume de la lumière, c'est le royaume de Jésus. Amen. Amen. Et il faut pouvoir être rempli de cette conviction-là que le royaume de lumière, il est déjà en nous. Et que tout ce qu'on doit faire, c'est le manifester, l'accepter, se revêtir de ça pour pouvoir vivre cette nouvelle identité. Seigneur, je remets ma volonté à tes pieds, je remets mes plans, je te remets tout. Viens m'aider à répondre à mon appel. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cet appel de Dieu qui est cité dans Matthieu 16, Marc 16 et Matthieu 28? Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-ci sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Allez chez tous les peuples, dit Matthieu 28, pour que le monde devienne mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, je pense que quand on lit ces paroles-là, ça nous donne un peu une image, un début de c'est quoi cette bulle qu'est le royaume de Dieu qui est en nous et qui émane autour de nous comme un rayonnement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui prêchent mon nom. Voilà comment Dieu montrera la gloire. Ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront de langues nouvelles, ils prendront des serpents dans leurs mains. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. C'est pas un super pouvoir qu'on a reçu, c'est une conséquence de ce qu'on vit. C'est pas un truc comme ça qu'on va avoir. Non, non, c'est une conséquence. Je vis ma vie avec Dieu et par conséquence, il y a ces choses-là qui arrivent. Et parfois, c'est pas facile parce que ça nous remet en question. On se remet en question par rapport à ces choses-là. Ouais, mais moi, il n'y a pas tout ça dans ma vie. Qu'est-ce que je vis bien, ma vie de chrétien? Pendant longtemps, j'ai culpabilisé parce que je trouvais que j'évangélisais pas à cette personne. Ça me faisait, je trouvais un mauvais chrétien, en fait. Et si vous voulez tout savoir, pour le moment, il y a une personne à qui je parle de Dieu. C'est tout. Une seule. Évidemment, je travaille avec un ministère d'évangélisation qui s'appelle Jésus Révolution, donc ça prend parfois des ampleurs plus grandes, mais de façon directe, à combien de gens j'amène Jésus? Eh bien, une, et je suis très content avec ça. Parce que c'est là où je dois être, c'est là où Dieu me veut. Je sens que dans mon identité, c'est la place que je dois être. Et bien sûr, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours continuer à avancer, mais je pense sérieusement qu'on doit pouvoir libérer toute condamnation, mensonge dans la tête, et pouvoir revêtir cette identité céleste que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Je vois que le temps avance. Je propose de passer un moment dans la prière. S'il y a des gens qui veulent recevoir quelque chose dans la prière, je vous invite à avancer devant. Il y a Pascal et moi, on veut pouvoir prier pour vous. Hein, moi, je pense que Dieu veut faire quelque chose ce matin. Il veut pouvoir nous aider à nous rendre compte de qui on est en lui. J'ai demandé à Camille et Léa de revenir pour nous apporter un dernier chant. Ouais, il y a vraiment cet appel qui est fait ce matin. Peut-être il y en a qui sont appelés ici à gagner quelques centaines d'euros en moins, mais pouvoir vraiment vivre leur vie avec Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont appelés ici à mettre des plans devant Dieu, à les abandonner parce que c'est pas qui on est. C'est pas les choix que je veux faire, ça. Moi, je pense que Dieu, il veut nous démontrer à quel point la vie qui nous attend, la vie qui nous réserve, eh bien, elle est bonne et pleine de bonnes choses. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous éclaire, Jésus. Je te remercie parce que ton esprit est présent en ce lieu et il agit. Seigneur, on veut vraiment pouvoir te demander de prendre toute la place dans nos vies. Viens nous aider à pouvoir nous rendre compte de l'identité que tu as mis en nous. Jésus, on veut pouvoir se mettre au pied de la croix et que tu puisses, et on veut te laisser adapter notre caractère. On veut te laisser que tu puisses vraiment rendre notre caractère à la hauteur de notre appel, Jésus. Seigneur, cette chose-là, on ne peut pas la faire, mais on peut te laisser nous travailler. On veut te laisser de l'espace, Seigneur. On ne veut pas arriver avec une attitude de fierté, Jésus, de colère, mais on peut voir juste abandonner les choses à ta croix. Parce que si on sait qu'on abandonne les choses à ta croix, tu vas nous rendre forts, Jésus. Tu vas nous rendre puissants. Tu vas nous rendre des fils et des filles du royaume. Merci Seigneur, parce que quand on va dans le lieu de travail, dans le lieu de recherche d'emploi, d'études, dans la famille, on amène ce royaume avec nous, Jésus. On n'est pas tout seul. Il y a toi qui vis en nous. Il y a tous les cieux qui nous accompagnent. Seigneur, viens nous aider à pouvoir nous rendre compte de cela et manifester ta présence d'une façon tangible, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas vivre une foi qui est juste pour nous, mais le changement que tu fais à l'intérieur de nous, viens vraiment le mettre aussi à l'extérieur de nous, Jésus. On sait que c'en est la conséquence. Père Céleste, on veut te demander pardon s'il y a des choses qui nous séparent de toi, des idoles peut-être qui prennent trop de place dans nos vies. On te remercie parce que quand tu nous regardes, eh bien, tu ne vois pas ces idoles, Seigneur, mais tu vois Jésus en nous. Et on a ton approbation. Seigneur, merci parce qu'on peut tous dire ce matin que toi, le Père, tu nous regardes avec un sentiment d'approbation, que tu as des bons sentiments envers nous, Jésus. Que tu vois pas nos échecs, nos erreurs, mais tu vois Jésus. Et tu nous aimes d'un amour profond. Tu nous vois comme on est supposé être. C'est-à-dire tous les déchets dans la vie, toutes les choses qui nous ralentissent, qui sont un poids, on veut maintenant les enlever de nos épaules et les déposer devant toi, Jésus. Père Céleste, je te remercie pour vraiment le sentiment de repentance qui est dans cette pièce. Et parce qu'on peut venir au pied de ta croix, Jésus, et tout abandonner. Oui, Seigneur, viens vraiment enlever tout fardeau, Seigneur, tout poids inutile dans nos vies, Jésus. On va se tenir à tes pieds, Jésus, et vraiment te louer. Parce que tu es un Dieu bon. Amen.